Petit mot rapide avant qu'on lance l'émission pour vous prévenir que les 10 premières minutes sont un petit peu chaotiques au niveau son, mais ça va beaucoup mieux après. Désolé pour ces problèmes techniques, et puis on lance l'émission tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui vous résume et qui vous explique l'actu des jeux vidéo toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja. Pour ce rendez-vous un petit peu presque festif, on est à quelques jours de Noël, deux jours, on est le 22 de Noël seulement, de la veille de Noël. Et je suis avec un jeune homme que j'ai l'impression de déjà connaître, même si on ne s'est jamais vraiment parlé.
C'est vrai,
ça fait bizarre.
Salut Patrick. Je te connais par podcast interposé.
C'est ça.
Voilà.
J'ai tellement en plus parlé avec ton camarade Cédric Ingrand dans le Rendez-vous Tech, qui me vante tellement tes mérites que du coup, moi, je m'attends à des choses incroyables.
Mon Dieu. À trop niveau.
Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas?
Guillaume Delalande, ça fait bientôt 10 ans, même plus de 10 ans que je suis à LCI et que je travaille avec Cédric Ingrand, sur le magazine des nouvelles technologies qui s'appelle Plein Écran, qui en est à sa 11e saison, le temps passe très vite. Et depuis le début, je m'occupe plus précisément de la chronique jeux vidéo et je suis Cédric, depuis le début, dans toutes nos aventures technologiques autour du monde. Il y a beaucoup de choses à faire. À côté de ça, j'ai publié un gros livre sur Assassin's Creed l'année dernière et l'année d'avant. J'écris un petit peu partout. Je m'occupe.
Très bien, très très bien. Je pense qu'on va avoir des discussions intéressantes, effectivement, d'autant plus qu'on a des sujets plutôt, excessivement touffus, mais des choses à discuter, on va dire. Et avant de se lancer, je voudrais dire aux auditeurs que Skype, d'avoir été mise à jour et ayant désactivé la possibilité pour moi d'enregistrer Skype directement depuis Skype lui-même, je suis en train d'utiliser des méthodes annexes, donc j'espère d'une part que ça enregistre et d'autre part que le son ne sera pas
de surprise.
Voilà, c'est ça. Donc si le son a des petits problèmes, j'espère que vous nous en excuserez. Ça sera dû à aux tentatives qu'on est en train de faire. Normalement, ça marche, mais bon. Et puis, il faut espérer que les plombs de chez Guillaume ne ressautent pas, comme juste avant.
Voilà. C'est beaucoup de contraintes bizarres aujourd'hui. On va y arriver.
Oui. En plus, ça coupe un petit peu de temps en temps chez toi. On sent que l'esprit de Noël a déjà envahi nos appareils qui sont en vacances.
Tout le monde est en vacances, surtout. Voilà.
C'est ça, exactement. Bon, allez, on se lance dans les news avec première information. C'est le blog de la PlayStation qui a annoncé avoir vendu... Enfin, le blog. Non, PlayStation et Sony ont annoncé avoir vendu 1 million de PlayStation 4 en France déjà, ce qui est un chiffre assez impressionnant, surtout quand on sait que c'est après le Royaume-Uni et l'Allemagne qui ont eux-mêmes aussi atteint le chiffre du million de PlayStation 4 vendus, sachant qu'en Allemagne on en est déjà à 1 million 2. Après la première année d'exploitation, Noël n'est pas encore arrivé, le blog date d'il y a quelques jours, ça a été publié le 18 décembre, très exactement, et on a des chiffres qui vont nous permettre de faire une petite comparaison, parce que, déjà peut-être avant de donner les chiffres, une impression comme ça, la console, cette génération de consoles est en train de se vendre, et en particulier la PlayStation 4 est en train de se vendre beaucoup plus vite que là où les générations précédentes quand même.
Ah très clairement, quand on regarde les courbes, il y a un taux d'adoption très très rapide, on voit que ça monte très vite. Et d'ailleurs, on se posait un peu la question quand même au début, parce que sur les premières semaines, voire les premiers mois, c'était mais pour jouer à quoi mais c'est arrivé au fur et à mesure, heureusement. Mais il y avait une vraie appétence pour. Je pense que surtout les fonctions sociales de ces deux nouvelles consoles ont été vraiment très très attendues et que voilà, on voit très bien l'explosion des youtubeurs, des vidéos sur Internet. Maintenant, c'est totalement intégré dans ces nouvelles consoles et de fait, je pense que c'était une grande attente là-dessus. Après, évidemment, les capacités techniques, évidemment, ça permet de faire des choses encore mieux que ce qu'on pouvait faire avant, mais le gros quand même c'est l'intégration totale des fonctionnalités sociales. Donc là,
c'est vrai. Moi j'ai pas vraiment l'impression.
Je pense que je sais pas.
Ouais. Moi j'ai pas l'impression que ça soit les fonctionnalités sociales. J'ai plutôt l'impression que ça faisait tellement longtemps qu'on attendait une nouvelle génération que les gens se sont jetés dessus. Pour moi c'est plus. Alors, même si effectivement il y avait pas énormément de jeux à l'origine. Peut-être même étrangement un peu plus d'exclusivité sur Xbox qui marche moins bien que sur PlayStation. Mais bon,
alors c'est vrai que la génération précédente avait été volontairement rallongée par les deux constructeurs et surtout par Sony qui avait très clairement dit moi la PS3 elle tiendra 10 ans parce que c'est comme ça. Faut un peu rentabiliser au bout d'un moment les investissements énormes qu'il faut pour construire une console. Donc de fait oui, il y avait évidemment une attente mais une attente un peu dans le vide. Donc voilà, on avait le matos, les jeux sont arrivés après.
C'est ça. Et donc pour faire une comparaison un petit peu, j'ai ressorti des chiffres. Alors, j'en ai quelques-uns, notamment la PlayStation 3 en Europe, qui dans sa première année d'exploitation, donc en Europe, entre mars 2007 et mars 2008, ou 2006 à 2007, que je dise pas de bêtises, attends, je vais revérifier, mais oui, c'est ça, de 2007 à 2008, la PlayStation 3 était sortie en 2007. Donc sur cette période, elle a vendu 1,6 million d'unités à travers les territoires européens. Donc bon, il y avait eu qu'une seule période de fin d'année, mais il n'empêche 1,6 million d'unités en un an sur l'Europe, alors que là on en est rien que sur la France, l'Allemagne et l'Angleterre à plus de 3 millions. Ça montre à quel point les gens étaient
Souvenons-nous, il y avait une énorme différence par rapport à la PlayStation 3, c'était son prix.
Bien sûr, 600 euros.
La PlayStation 3, c'était extraordinairement cher à l'époque. Ouais. Surtout qu'à l'époque, en plus, on lui disait, oui, mais cette console, elle va rester 10 ans, elle est HD, vous allez voir, ça va être génial, on va pouvoir faire plein de trucs. Mais les foyers n'étaient absolument pas équipés en téléviseur HD à l'époque. Les chiffres, c'était quoi? À peine 25%, quelque chose comme ça. Et c'était d'ailleurs pour ça que Nintendo avait très clairement décidé que la Wii ne serait pas HD et laissé courir les autres devant parce que ça servait à rien de faire une console qui n'était pas encore adaptée à la majorité des foyers. Sur le long terme, ils ont gagné d'ailleurs parce que la Wii a été le grand vainqueur de cette génération. La PS3, elle était très clairement très high-end et c'était aussi très clairement pour Sony. Faut se remettre aussi dans le contexte, le cheval de Troie pour essayer d'imposer le Blu-ray
qui était en pleine guerre. Ils ont réussi d'ailleurs
à l'époque. Et ils ont réussi, mais justement grâce à la PlayStation, qui est un excellent lecteur Blu-ray. Et de fait, voilà, le fait d'intégrer toutes ces fonctionnalités, c'est fait que la console, de fait, elle était forcément très chère, ce qui a vraiment très très pénalisé ses premiers mois, voire ses premières années, parce qu'elle a vraiment décollé à partir du moment où ils ont baissé le prix, tout simplement. Donc, comparer la PS3 à la PS4, je sais pas. Peut-être comparer la PS2, ce serait peut-être plus...
C'est vrai, t'as raison. Écoute, voyons les chiffres... Nous revoilà donc avec un son qui sera un petit peu moins chaotique, je l'espère.
On l'espère.
Voilà. Guillaume est repassé sur son Mac, du coup, pour lequel il n'a pas forcément de micro. Donc, mais au moins, ça va. On va l'entendre. C'est déjà pas
mal.
Oui,
voilà.
Et donc, on parlait... Passe très bien. Et on parle en même temps, ça marche aussi. Et donc, on parlait des ventes de PlayStation et j'avais retrouvé des chiffres à 2010. Donc, au bout de 15 ans pour la PlayStation 1, je sais plus combien pour la PlayStation 2, 10 ans et 3 ou 4 ans pour la PlayStation 3. Donc, 15 ans, il s'était vendu 5 millions de PlayStation 1. La PlayStation 2, en 2010, il s'en était vendu 6 millions et seulement, entre guillemets, 2 millions 5 pour la PlayStation 3. Donc, quelle que soit la manière dont on retourne les chiffres, ils sont très bons pour les ventes de PlayStation 4 et on n'a pas encore les derniers chiffres pour la Xbox, mais ils sont très bons aussi d'après ce qu'on... Enfin, quand on compare aux générations précédentes. Donc, l'extension...
Surtout après les baisses de prix un peu partout, pas encore chez nous, mais ça ne serait tardé.
Oh, on pouvait les trouver quand même dans des packs intéressants, en fait, la Xbox One.
Oui, ils ont fait des gros packs, exact. Avec des jeux, tous les jeux qui sortaient à Noël, pas mal d'ailleurs. Ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. Donc c'est pas grave, ça
va bien. PlayStation. donc bon, bref, en tout cas, ça se vend très très bien et comme tu le signalais entre les deux débuts d'enregistrement, surtout en Europe du Sud, effectivement, c'est le domaine de Sony, quoi.
C'est très impressionnant comme sociologiquement, il y a vraiment des divisions et en Europe c'est vraiment très très clair. Et depuis la toute première PlayStation, c'est que les pays d'Europe du Sud, dont la France fait partie, sont des terres d'adoption de la PlayStation et qu'elle a toujours été devant toutes les autres marques. Ouais. J'arrive pas à l'expliquer encore. Je t'avoue, je comprends pas sociologiquement pourquoi les Saxons et les Germaniques sont plus Microsoft et compagnie et que il y a toujours une fidélité Sony à l'Europe du Sud. Si tu as une théorie là-dessus, je suis preneur.
Bah moi, ma théorie en France, c'est l'amour du Japon qui est arrivé en fait en Europe et même dans le monde un petit peu par la France et qui, à mon sens, est peut-être un petit peu plus présent ailleurs. Et pendant très longtemps, c'était les consoles les gros jeux japonais comme Final Fantasy dont on va parler un petit peu plus tard. Bah c'était Sony, hein. Enfin c'était Nintendo et puis Sony. Donc c'était et puis d'autres jeux japonais. Donc je pense que ça c'est par là que c'est venu.
Et ça tient parce qu'en Espagne aussi, c'est un gros pays nipophile, si on peut dire. Ils sont très très aussi portés sur les mangas. Donc ça ferait sens aussi, ouais. Ça tient.
Bah voilà. Peut-être. Et à propos de Japon, justement, alors on a parlé au dernier épisode de la Xbox pendant assez longtemps. Aujourd'hui, on parle de la PlayStation à nouveau. Et où en est Nintendo? Bah écoutez, il commence à sortir la tête de l'eau. Il commence à sortir la tête de l'eau toujours au niveau des chiffres, puisqu'ils annoncent être en train d'atteindre le 500 000 de consoles vendues en France. Ouais, en France, ce qui est correct quand même, sachant que la console est sortie il y a 2 ans aujourd'hui.
Oui, fallait attendre Mario Kart comme à chaque fois. Voilà. C'est pas de mystère. Hein. C'est à partir du moment où tu as ton Mario Kart sur ta console Nintendo, paf, ça décolle. Et là, en plus, c'est avec Smash Bros. Là, pour cette fin d'année. En plus, en même temps, sur la 3DS. Donc là ça va être le carton plein. Là, c'est parti. Ouais, ça a été long parce que.
Les jeux n'étaient pas là.
Ils n'ont pas pensé qu'il fallait des gros jeux à la sortie de la console. C'est bêta quand même. Hein. Alors, ils ont eu en plus du mal à la programmer et ou de se dire qu'il valait mieux prendre un petit peu plus de temps pour être sûr que le jeu soit parfait à la fin.
Je pense que c'était plutôt le fait d'abandonner l'idée de vraiment. Bon, d'une part, il faut le temps de développer les jeux, c'est sûr. Et puis le fait de se dire la mablette, ça sert pas à grand chose, donc on va faire les bons jeux, commencer les faire. Et puis voilà, et on va
c'est
pas
sûr
trop
de
s'embêter.
Dire qu'on a eu tort. Hein.
C'est ben oui, exactement.
D'essayer d'imposer quelque chose et de dire que finalement ça marche pas. C'est vrai que l'effet gadget, hein, c'est l'effet raclette intégré de la Wii U. Donc voilà.
Exactement, ouais.
On avait déjà un peu le même cas sur la Wii avec tous les détecteurs de mouvement et les très bons jeux de la Wii n'utilisaient pas cette détection de mouvement. Ou alors c'était vraiment en gadget. Souvenez-vous le Donkey Kong qui était sorti où il fallait bouger les manettes pour faire taper dans le sol. C'était ridicule. Donc, c'est bien de se dire des fois qu'on a tort et d'essayer d'avancer.
Effectivement, pour la Wii, c'était plus. Pour moi, je l'ai toujours vu comme un phénomène genre. Rubik's Cube, jeu de société, quoi. C'était pas et clairement les gens ont pas suivi sur la Wii U, donc c'était un petit épiphénomène. Et quand
à ceci
les
près
coups,
qu'elle est rentrée dans les maisons de retraite. C'est quand même la
aussi,
première
non,
console
non,
à avoir réussi à faire cet exploit-là.
Bien sûr. Non, mais c'était un vrai phénomène de société. Mais je suis pas certain que ça ait, comme on l'a beaucoup dit, amené les gens aux jeux vidéo. Ce qui a amené les gens aux jeux vidéo, c'était plus les jeux vidéo eux-mêmes qui sont de plus en plus appréciés. Mais pour moi, la Wii était quelque chose à part.
Mais là, c'est un autre débat.
Mais en même temps, c'est le cas aussi. Mais bon, c'est peut-être un autre type de jeux vidéo.
J'attends encore l'étude pour me dire si les gens qui sont arrivés par qui étaient très 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 gros guillemets le casual gaming se sont penchés plus sur des jeux de type AAA.
Ça, je ne suis pas certain, mais tu sais, il y a un truc qui est assez intéressant dont j'ai parlé dans la version américaine de l'émission, enfin la version anglaise de l'émission, Pixels.
American.
qui était un papier de Polygon qui datait, qui a quelques semaines et un autre qui date d'il y a quelques mois sur les jeux de Lindsay Lohan et de Kim Kardashian, vous savez, hein, Kim Kardashian,
oui,
Hollywood, machin. Et justement, où il disait que le jeu de Kim Kardashian, c'est un peu le fantasme du jeu de rôle, de vivre dans un autre monde, sauf que là où nous, notre fantasme, c'était Donjons et Dragons, et vivre une aventure, soit Donjons et Dragons, soit Star Wars, et ben là, Kim Kardashian, c'est le fantasme de Hollywood. Et
non,
c'est un jeu drôle,
avec les décennies, ouais.
C'est ça, de vivre dans ce type d'univers. Alors évidemment, c'est hyper exagéré, c'est des bons jeux qui sont bien faits, mais finalement, ils sont pas moins valides dans ces contextes-là. C'est pas parce que c'est Hollywood et qu'on parle de Botox et de
faire des soirées. J'ai un exemple assez proche de moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est un gros gamer, qui adore tous les jeux d'horreur qui sortent, voilà, et qui joue aussi à ce Kim Kardashian sur son iPhone.
Ouais,
et
bah
voilà, il adore les deux. Donc ouais, comme quoi, c'est peut-être possible. Mais il jouait déjà aux jeux AAA avant.
Oui, bon, c'est peut-être différent des gens qui... Mais bon, ça continue à évoluer, mais cette comparaison de... c'est un des fantasmes, de la même manière que nous, les geeks, notre fantasme, c'est tuer des dragons. Y a des jeux qui permettent finalement de réaliser des fantasmes un petit peu impossibles, sauf qu'au lieu de tuer des dragons, c'est de vivre à Hollywood, évidemment avec des grosses guillemets, quoi. Alors justement, on parlait de Nintendo et du fait qu'ils sortent de la tête de l'eau avec la Wii U, et on a des informations, ou plutôt des rumeurs, on va continuer à appeler ça des rumeurs pour le moment.
Oui, avec des gros guillemets.
Oui, grosses guillemets. C'est les informations sur la prochaine console ou les prochains produits de Nintendo. On a eu, c'est la ruche justement.com qui a rapporté cette information de Associated Press, selon laquelle Miyamoto a annoncé que les prochains prototypes de la prochaine console sont déjà en train d'être testés, ce qui est pas si surprenant
que
ça. Voilà, il y a rien de très étonnant. Encore que la Wii U étant sortie il y a 2 ans, c'est un petit peu rapide quand même, mais vu le four qu'elle a fait, parce qu'elle a clairement fait un four.
Ce qui est rapide, c'est d'en parler.
C'est ça.
Très bien que dès qu'on sort la console, on est déjà la tête dans la suivante, et ça depuis toujours.
Et
le
donc,
fait d'en parler rapidement, c'est peut-être pour dire oui, bah là, on sait que ça marche moyennement, mais vous inquiétez pas, on revient.
Voilà, exactement. Et donc ils auraient signé un accord avec AMD, puisque de l'autre côté, AMD a dit qu'ils avaient signé un accord avec un constructeur de console pour une prochaine console, et que ça serait déjà signé. Étant donné que Sony et Nintendo viennent de sortir les leurs et qu'elles fonctionnent sous AMD, bref, on en conclut que la prochaine console de Nintendo est déjà sur les rails et pourrait, alors l'estimation de la ruche, c'est 2016 pour une annonce, peut-être même une sortie en 2016, pourquoi pas, ça ferait un petit peu rapide quand même.
C'est un peu rapide,
Mais pourquoi pas, surtout si elle est rétro-compatible avec la Wii U, de la même manière que la Wii U est rétro-compatible avec la Wii, ça pourrait leur permettre de redonner un coup de fouet à leur marché de consoles de salon. Moi, ça me semble pas impossible, quoi.
C'est un peu vite enterré la Wii U quand même, parce que là, elle redémarre que maintenant, là, pour le coup. Et là, je pense qu'on n'a pas encore vu l'effet Smash Bros. Voilà, il vient juste de sortir. Donc, on va voir. Si ça décolle vraiment là à fond, je pense qu'elle a encore quelques années devant elle. À partir du moment où le parc est installé et qu'il devient plus important, peut-être, hein, on sait jamais, que des éditeurs tiers se diraient, tiens, il y en a plus qu'avant, on va peut-être pouvoir sortir un jeu. Mais c'est vrai que c'est un peu le désert total des éditeurs tiers. Depuis
en même
pas
temps,
mal d'années pour le coup chez Nintendo.
En même
il y
temps,
avait encore Ubisoft
la...
il y a pas longtemps, mais là, le fait, on a bien vu avec Watch Dogs ce qui s'est passé, le sans cesse
repoussé
la version Wii U, et puis voilà, elle est sortie, personne n'en a parlé, enfin c'était vraiment... Mais quand on voit les chiffres, c'est catastrophique de toute façon.
À vrai dire, il faut pas non plus oublier, bon, je pense pas que ça soit la même situation, mais il faut pas oublier que la 3DS a mis beaucoup de temps à s'imposer aussi, quoi. Donc bon, bref,
c'est vrai.
C'est pas tout à fait la même chose.
Et cartonne, voilà.
Et là,
on n'est pas sur le même marché.
C'est ça. Voilà.
Et puis il y a eu le problème de la 3D qui s'est bien calmé en Europe. C'est très rigolo d'ailleurs de voir la différence qu'on a par rapport à ça entre le Japon et l'Europe. Le problème qu'on a eu en Europe, c'était la santé. Attention, à partir de 7 ans, enfin, faut pas donner la console à des moins de 7 ans, voire 10 ans, parce que la 3D, ça fait loucher les yeux et que ça peut endommager les nerfs optiques de nos petits enfants. Aïe aïe aïe. Tiens, ça me rappelait bizarrement l'épilepsie de mon époque. Et au Japon, pas du tout. Et ils ont refait encore plein de la nouvelle 3DS qui vient de ressortir, qui fait une superbe 3D. Donc, en fait, en Europe et aux États-Unis, ils nous ont fait la 2DS, donc sans la 3D, qui cartonne chez les gamins.
Elle n'existe pas au Japon, la 2DS ?
La 2DS n'existe pas au Japon.
Je pensais.
Et non, pas du tout. C'est une console qui a été pensée exclusivement pour répondre à cette peur de la 3D qui n'est vraiment qu'en Occident.
Ah, moi, je pensais que c'était pour la vendre moins cher.
Mais médicalement, c'est faut faire attention aussi. Hein, c'est pareil, au cinéma, un film en 3D, c'est vrai qu'au bout de 3 heures, on peut avoir mal à la tête. Et c'est vrai que chez certains enfants aussi, ça peut faire mal à la tête. Tout ça pour dire que en sortant cette version de DS, voilà, vraiment esprit jouet en plus, tu vois, en plastique, coloré, très flashy. Voilà, ça ressemble à un jouet incassable presque, tu vois.
Oui, complètement. Oui.
Et donc elle cartonne vraiment chez les très jeunes. Et de l'autre côté, le Japon sort la New 3DS super boostée avec un capteur NFC.
Bon, qui va arriver ici aussi, mais
qui devrait arriver en 2015, mais qui était surtout sorti au Japon pour rebooster les ventes parce que tout était totalement à saturation sur toutes les versions. Donc voilà, il fallait ressortir quelque chose de nouveau. Donc voilà, culturellement c'est différent.
Et donc, quand on parle de nouvelles choses, on a aussi entendu des informations sur Nintendo qui serait en train de courtiser Sharp pour un écran à forme non rectangulaire.
Alors, l'ai vu, cet écran.
Oui, bon, disons que c'est pas forcément cet écran-là spécifique.
Non, cette technologie en tout cas.
C'est ça, qui permet d'avoir des écrans avec des formes
totalement bizarres dans tous les sens. Voilà. Alors là, pour le coup, ce qu'on avait vu au salon Seatec à Tokyo, c'est le CES japonais qui se passe en octobre. C'était un... comment on appelle ça ? Là où on voit les compteurs de vitesse dans les voitures. Le panneau de vitesse qui était complètement découpé, donc on voyait les deux formes arrondies et on pouvait faire un écran de forme totalement bizarroïde et ça marchait très bien avec des petits effets de transparence. C'était vraiment très joli, donc je me dis tiens, pourquoi pas. D'autant
mais
que
pour
on sait
faire
très
quoi
bien qu'entre Nintendo et Sharp, c'est une vieille histoire d'amour qui date
c'est
depuis
sûr.
Oh là, 30-40 ans au moins.
C'est sûr, sauf que qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah voilà, la prochaine console de Nintendo, écran à taille étrange ». Beaucoup de gens ont aussi dit avec justesse « Il n'est pas du tout impossible que ça soit pas du tout pour leur console, mais plutôt pour leur appareil qu'ils appellent Quality of Life pour le moment, qui serait un capteur de sommeil et qui vous donnerait des bons conseils pour mieux vivre.
On a retrouvé le Vitality Sensor, c'est ça ?
Exactement. Exactement.
Ils l'ont collé. Jamais sorti.
Ils lui ont collé un écran bizarre et ils vont vous le revendre dans un an ou deux. Mais bon, donc voilà. C'est peut-être la prochaine console de Nintendo. C'est peut-être aussi pas du tout la prochaine console de Nintendo. Moi, je pense qu'ils vont peut-être faire un truc complètement classique maintenant Nintendo. Ils vont venir à juste une console avec pad, enfin sans mablette, sans motion gaming, sans rien de tout ça. Bref, on verra ça dans
Le Quality of Life, il faudrait qu'ils se bougent parce qu'ils sont pas les seuls. Hein.
C'est sûr.
C'est même peut-être un peu tard là pour le coup. Alors peut-être pas au Japon parce que je sais pas si Withings et compagnie sont très développés là-bas. Je pense pas encore. Mais pourquoi pas. En tout cas, chez nous, j'ai l'impression que c'est déjà bien avancé.
Oui, mais tu sais, comme le disent et
mais
le font souvent Apple et Nintendo.
Ton rouleau compresseur.
Voilà. Oui. C'est ça. Nintendo et Apple, c'est pas forcément et d'autres, hein, mais c'est pas forcément.
Évidemment.
C'est des sociétés qui font pas les choses en premier, mais qui attendent justement que les technologies soient bien installées et puis qui font quelque chose de complètement intégré qui attire les masses. Donc on verra.
Ils avaient fait leur podomètre sur la précédente, c'était juste la DS. Ouais, la DS
intégré à la DS.
Alors oui, alors il est intégré, mais même avant sur la version précédente où il n'y avait pas encore le podomètre intégré, tu avais un petit capteur que tu portais sur toi, tiens, un podomètre que tu apparais en infrarouge, voilà.
Sur la 3DS, il y a toujours eu le podomètre. Moi, j'ai acheté une vieille version et il y a le podomètre.
C'était quoi ? C'était marche avec moi ? Bah écoute, on va vérifier, je sais pas.
D'accord. Bah, c'est peut-être là.
Enfin, je l'avais.
Tu penses peut-être à la DS.
C'est rigolo. Il t'en donnait deux, donc tu pouvais le donner à ton ami et continuer, voilà, à voir marche avec moi. C'était quelle année ça, voilà. Donc ça leur vient de loin quand même. Voilà, marche avec moi. Quel est ton Nintendo DS de podomètre?
Ah, c'était ça, oui, d'accord.
Ouais, c'était ça. Et c'était rigolo parce que évidemment, à la Nintendo, hein, voilà, tu dépassais tes objectifs, t'avais des points, des étoiles, etc., etc. Enfin, toute la gamification qui pourrait faire que ça pourrait très bien marcher. Nintendo le faisait.
Ouais. Bon, bah écoutez, on aura des informations très certainement dans l'année ou les deux années à venir. Autre information qui m'a, moi, un petit peu marqué, et étrangement, je ne sais pas pourquoi, mais je vais essayer d'analyser juste après, c'est un nouveau trailer de Final Fantasy XV qui a été diffusé à la Jump Festa. Jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est le
grand éditeur,
manga, voilà, éditeur de manga, l'un des plus gros au Japon, qui édite tous les plus gros magazines de manga. Voilà. Disons que les plus gros dont vous avez entendu parler, a priori, c'est Jump qui qui les a édités.
Qui les a fait naître dans ses pages.
C'est ça. Que ça soit Dragon Ball, One Piece, enfin tous, quoi. Et donc, à la Jump Festa, qui est un festival de Jump, qui parle aussi de jeux vidéo, il y avait un trailer de Final Fantasy XV. Et bon, on n'a rien appris de vraiment nouveau sur Final Fantasy XV, mais je voulais en parler parce que pour moi, ça a fait un petit peu le même effet, et c'est peut-être moi qui fais un retour sur les jeux japonais, mais ça m'a fait un petit peu le même effet que pour Metal Gear, Metal Gear Solid 5, moi j'avais laissé tomber les Metal Gear il y a très longtemps, et j'avais laissé tomber les Final Fantasy il y a un bon moment aussi, et là avec le 15, je me dis bon, je vais peut-être revenir voir ce que c'est, revenir voir ce que ça donne. Alors, c'est très différent des Final Fantasy d'antan que j'ai connu il y a très longtemps. Moi, j'avais fait jusqu'au 8 ou 9 peut-être 8. Et là, c'est vraiment beaucoup plus action, c'est beaucoup plus... c'est toujours très scénarisé, avec des scènes vidéo, des movies, des films pré-calculés qui sont vraiment impressionnants, enfin... moins impressionnant aujourd'hui qu'il l'était à l'époque, mais tout de même. Et puis, je sais pas, c'est un petit peu plus action, et puis je me dis, c'est peut-être le moment de redonner sa chance à Final Fantasy, de la même manière que je me disais, c'est peut-être le moment de redonner sa chance à Metal Gear Solid. Je sais pas si toi, t'es fan des Final Fantasy, ou...
Alors, de loin, parce que je sais pas tout, j'ai vraiment pas tous fait, et j'ai même donné sa chance au dernier, et au bout de 6 heures dans un couloir, j'ai dit non, stop, j'arrête, je n'ai plus 6 heures à passer dans un couloir, ça m'amuse plus, ouais. Quoi, vraiment. Autant je pense que ça pouvait m'amuser quand j'étais ado, et surtout, quand je repense à l'histoire, mais ça tenait déjà sur un ticket de métro, et c'était tellement caricatural. Enfin, je pense qu'on aspire à d'autres choses un peu plus complexes aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr.
Donc, en même temps, c'est comme tu disais, ça peut être aussi une madeleine. Donc, moi, j'ai envie d'autre chose. Voilà, j'ai plus envie de passer 10 heures dans un couloir à enchaîner les combats, sans trop m'amuser. Donc, le 13, j'avais vite laissé tomber. Et là, en regardant, pourquoi pas? Écoute, avec la voiture, style monde ouvert, mais pas vraiment. Enfin bon, ok, pourquoi pas.
Bon, disons que moi, je pense que j'y goûterai un petit peu. Et pour ceux qui sont hyper impatients, voilà, exactement. Mais pour ceux qui sont hyper impatients, Final Fantasy Type 0, qui va sortir en mars, si je ne m'abuse, était aussi présent. Et il aura, dans l'excellente tradition des vieux jeux PlayStation, et d'ailleurs ça avait été le cas avec pour Metal Gear Solid, qui était sorti dans je sais plus quel jeu, une démo, enfin le Ground Zeroes qui était sorti, ou peut-être même en vente tout seul. Bref, il y aura dans Final Fantasy Type Zero une démo de Final Fantasy XV, donc il sera disponible dans à peine quelques mois. Et Type Zero, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était Final Fantasy Agito 13, Agito 13, de l'univers Fabula Nova Crystallis, qui était l'univers de Final Fantasy 13. Il est un petit peu plus adulte, mais c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur PSP, qui avait été annoncé comme Final Fantasy Agito 13, et qui est donc sorti comme Type 0. Franchement, il n'a pas l'air super super beau, mais je pense qu'il va se vendre grâce à cette démo de Final Fantasy 15.
Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas.
Ouais, c'est sûr. Quelques autres petites news rapidement du côté de la Xbox et plutôt des Américains qui sont très friands de Halo 5. C'était la joie puisque la bêta multijoueur de Halo 5 est disponible depuis quelques jours et on commence à en voir quelques images. Moi, j'avoue que ça m'a pas énormément parlé, mais bon, pourquoi pas. Et entre parenthèses, dans leur pub, ils disent, dans le trailer de la bêta multijoueur, qui est assez marrante, ils disent Xbox One maintenant à $349. Donc, ça a l'air acté complètement, cette nouvelle baisse de prix.
Elle a besoin aussi.
Elle aussi.
Donc, voilà.
un article sur Gamekult que j'ai bien aimé, que je mettrai en lien dans les notes de l'émission. Un article sur les PC à monter soi-même. Ils ont trois PC qu'ils expliquent, dont ils expliquent le montage. Bon, pas un à un, mais ils prennent tout ça en détail. Si vous voulez monter votre PC vous-même, ils ont trois configurations différentes et j'ai bien aimé la manière dont ils présentent les choses.
Mais
la première, alors justement, la première c'est pour le prix d'une console next gen. Okay. La deuxième c'est pour le prix d'un iPhone 6 128 Go. Donc tu vois comment
ouais,
il a donc un PC complet.
C'est
ça
un
fait,
peu plus, hein.
Voilà. Et la troisième c'est pour le prix d'une paire de Google Glass. Bon là franchement.
Oui, enfin c'est... on sait pas combien elle coûte en même temps. Donc,
bah,
c'est...
de la paire aujourd'hui quoi, les 1 500 $,
oui,
les 1 500 €.
Enfin, développeur machin. Okay,
voilà ouais. C'est ça. Donc là on est à 500, 1000 et 1 500 en gros. Hein. Et franchement la deuxième configuration, déjà la première est correcte, la deuxième est plus que suffisante, ça correspond à peu près, à peu de choses près à celle que j'ai aujourd'hui. Et bon, si vous avez déjà voulu tenter l'aventure du PC à monter vous-même, vous avez une grande, longue vidéo qui vous explique comment ça marche. Peut-être regardez ça avant de vous lancer, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Si vous pensez que vous êtes pas sûr, peut-être que c'est pas pour vous. Mais moi, je le fais.
Pour mettre de la pâte thermique, c'est ça?
Oui, voilà, c'est voilà. Amusant. On met les mains dans le cambouis, tout ça. C'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu l'impression qu'avaient les gens qui réparaient leur propre voiture ou qui encore aujourd'hui réparent leur propre voiture.
Ah, ben, c'est de la mécanique, hein, clairement.
Ouais, ouais,
hein,
c'est ça, ouais, exactement.
C'est rigolo.
Autre info, Telltale est en train de créer un jeu Minecraft. Alors pour ceux qui ne savent pas, Minecraft c'est... bon, tout le monde connaît Minecraft, hein, Lego virtuel en quelque sorte, dans un jeu de construction. Comment est-ce que Telltale va nous sortir un jeu d'aventure dans cet univers-là, alors qu'il n'y a aucune histoire? Et c'était ma réaction. Je ne sais pas si tu as vu l'article en question, Guillaume. Tu as vu ce qu'ils ont
montré? Juste l'idée, ça, c'est très intriguant. Parce qu'en même temps, Telltale, ils savent raconter des histoires. On peut leur faire confiance. Sauf que là, raconter une histoire à partir de rien. en même temps, je réfléchis. Hein, là, ils ont bien fait un film à partir des Lego.
C'est vrai. Et le film était
fait
pas mal.
Movie. Et oui. Les Lego, c'est pareil. C'est exactement Minecraft. C'est des Lego virtuels quand on y réfléchit.
Exactement.
Donc peut-être qu'ils vont faire dans les mêmes mécaniques, pourquoi pas.
Peut-être. Tiens. Et le film Lego était bien. Et l'autre chose qu'on voit dans l'article de Polygon, et la raison dont je voulais en parler, c'est que tout le monde se dit mais Minecraft, quelle idée de faire une histoire, enfin un jeu d'aventure. Et en fait, il y a des livres Minecraft
Et ça se vend comme des petits pains.
Mais c'est ça. C'est pas des guides de jeu, hein. Il y a des guides de jeu, mais.
Non, pas du tout. J'étais en séance de dédicace à la Paris Games Week et donc à la librairie du jeu vidéo et ce qui partait, mais c'était cinq par demi-heure, c'était des bouquins Minecraft, quoi. C'était incroyable. Ça n'arrêtait pas, quoi.
C'était dingue. Enfin.
Incroyable.
Et donc,
et des gamins de 8, 10, 12 ans, voilà, c'était que ça. Minecraft.
Donc, il n'est pas si surprenant de ça. Finalement, là, ça pourrait surprendre beaucoup. D'ailleurs, ça m'avait surpris. Mais finalement, pourquoi pas.
Ils ont fait tellement de merchandising autour. Je vous raconte ma vie en même temps. Je vais faire mes cadeaux de Noël. Je suis passé dans un grand magasin de jouets. Et il y avait des peluches et des figurines Minecraft, pour te dire.
Oui,
donc, ils ont vraiment déjà décliné un peu tout. Et... après tout, bah pourquoi pas, si on peut rajouter une histoire derrière, bah pourquoi pas, à voir.
Ben
mais
oui,
voilà, en tout cas avec Telltale, ils savent faire et c'est intriguant en tout cas, à voir.
Oui, oui. Oculus a acheté deux sociétés qui sont assez intéressantes. J'avais parlé dans le rendez-vous tech de cette expérience qu'avait fait quelqu'un qui avait mis sur les lunettes donc de réalité virtuelle Oculus un petit capteur qui s'appelait le Leap qui captait son environnement et qui pouvait de manière très précise capter les mains de manière à pouvoir intégrer dans le monde virtuel vos mains en temps réel. Voilà, parce que c'était l'une des choses qui était étonnante. Qui était déstabilisante
l'immersion.
C'est ça, c'est qu'on n'avait pas nos mains quand on regardait, ou même notre corps, ou rien. Et donc, Oculus a acheté Nimble VR, qui est une société qui fait la même chose que Leap, donc qui modélise l'environnement et l'environnement direct, donc les mains, qu'ils pourraient intégrer à leurs lunettes. Et de l'autre côté, 13th Lab, qui amène l'environnement, mais là l'environnement au sens large, avec uniquement un iPhone 5, un iPhone 5 tout bête. Donc c'est une, vraiment une technologie accessible et disponible aujourd'hui. Donc qui modélise les pièces, l'environnement, et qui va même plus loin, qui peut modéliser des morceaux de rue, etc. Et donc ils ont acheté ces deux sociétés.
C'est juste logiciel.
Alors bon, j'imagine qu'il y a des appareils, enfin des parties matérielles qui sont nécessaires aussi. Dans le cas de Nimble VR, c'est sûr, mais quoi qu'il arrive, ils pourraient intégrer ça au kit de développement de l'Oculus, pour que ce soit pour les jeux vidéo ou pour d'autres applications. Et ça donne des possibilités intéressantes d'avoir l'environnement, que ce soit votre corps ou votre environnement, qui soit modélisé aussi dans les jeux ou dans les univers qu'il crée. Ça ouvre encore plus de possibilités, quoi.
Non, c'est très intéressant. Mais non, mais surtout que très clairement, quand on essaye ces casques-là, c'est vrai qu'on est plongé tout de suite dans un monde. Mais là, je me souviens très bien, la première fois que j'ai essayé le Morpheus, donc le casque de Sony, on était plongé dans une cage sous l'eau avec des requins qui passaient autour. Et le premier truc que j'ai essayé justement, c'était de bouger, de voir que mes bras suivaient pas tout à fait bien parce que la caméra voyait pas bien la couleur de la manette. Donc là, on était obligé d'avoir une manette pour pouvoir remodéliser les bras.
C'est ça.
Mais si on arrive justement à remodéliser les bras sans avoir quelque chose dans les mains, là, franchement, c'est assez fort. Et c'est vrai que c'est l'un des premiers trucs qui casse l'immersion quand on est dans un monde totalement virtuel, c'est de ne plus avoir la sensation de son corps. Et si on arrive à rematérialiser le corps dans le virtuel, là, on a fait un grand pas en avant.
Oui, et c'est donc à ce genre de choses qu'ils s'intéressent. Et bon, comme quoi, ils voient loin les petits gars de chez Oculus.
Ça pourrait le faire, hein.
Ouais. Un truc qu'il fait pas tellement, en tout cas pas pour moi, mais qui se vend quand même pas mal, c'est les fameuses Amiibo de Nintendo, les figurines avec NFC, tout ça.
Ils font que suivre les autres, hein.
Oui, mais bon, comme on le disait tout à l'heure, ils suivent parfois avec succès.
Mais là,
franchement,
c'est la matraque.
C'est un petit peu, mais moi, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'attrait de ces Amiibo? C'est juste des figurines d'accord. Bon, je suis le seul au monde.
Non, pas du tout. Mais il faut se mettre dans la tête d'un gamin de 10 ans aussi. Ouais. Enfin, c'est les collections des figurines. Mais regarde déjà les Skylanders. Mais c'est incroyable, c'est autant de succès que Minecraft là pour le coup. De pouvoir déjà, à la fois c'est une figurine, tu peux jouer à des figurines sans le jeu, surtout de retrouver ton personnage après dans ton jeu, déjà ils sont comme des dingues, de pouvoir après tu sauvegardes ta partie ou ton évolution de ton personnage dans ta petite figurine, tu vas chez ton copain, même s'il a pas la même console, tu pouvais récupérer exactement tout ce que t'avais chez lui et débloquer d'autres éléments que tu pouvais après retrouver chez toi.
Oui, mais ça les autres, les Amiibo ils marchent même pas comme ça. Tu le colles une fois et tu construis ton Amiibo en dehors même de la figurine. T'as plus rien à voir avec la figurine, donc.
Alors, ce qu'ils ont fait sur Mario Kart, ça va être super léger pour le coup. Mmh. C'est juste débloquer un costume pour ton Mii. Bon, c'est vrai que ça c'est light. Ce qu'ils ont fait pour Smash. Oui, alors non, là ça te prépare. Et tu sauvegardes ton évolution et ton personnage.
Oui, mais c'est l'évolution. C'est un personnage qui ne joue que tu ne peux pas jouer, qui est un personnage que l'ordinateur joue et que tu peux leveler, etc. Mais enfin, bon, je sais pas. Bref, il y a visiblement des gens qui aiment,
apprennent en marchant aussi et qui vont vite voir qu'ils peuvent faire plein d'autres trucs avec. Parce que c'est pour possible. Le coup, les puces, c'est exactement les mêmes. Enfin, le matériel, c'est exactement le même que dans les Skylanders. Il n'y a aucune
raison. Mais
est-ce
que tu es sûr qu'ils peuvent stocker des infos sur les figurines sur
Amiibo? Ils peuvent stocker des figurines. Si, sûr. Non, c'était très clairement indiqué. Ils peuvent stocker de l'info dans les figurines. Ça, c'est
peut-être que ça arrivera alors.
Surtout qu'ils ont dit qu'ils allaient faire dans chaque jeu que eux produisaient une intégration des Amiibo. Donc on verra très bien dans Captain Toad qui va sortir en janvier, de tout ce qui va sortir après.
Et de toute façon, c'est Captain Toad est déjà sorti, hein. Mais
au Japon. Ouais.
Non, il est sorti aux en États-Unis, Europe.
Chez nous. Mais non, il est sorti début janvier, je crois, chez nous.
Ah mais écoute,
il est sorti aux États-Unis.
Écoute, je l'ai mis sur ma liste de choses que je veux d'Amazon, donc.
Oui, mais tu l'achètes aux États-Unis.
Mais non, pas du tout. Moi, je suis complètement honnête et sérieux.
Ils l'ont peut-être ramené. Alors, écoute,
oui, il est sorti.
Je me souviens dans un calendrier qu'il avait mis début janvier. Je trouvais ça bête d'ailleurs de rater Noël.
Ouais. Non.
Parce qu'il est vraiment très bien. Alors pour le coup, voilà, Captain Toad, bonne idée.
Ouais.
Tu te dis, comment je fais pour renouveler mes jeux Nintendo? Je vais couper le son. Voilà, oui, Captain, merci. Voilà, vous l'avez entendu, j'imagine.
Non, ça a été. Cet article paraîtra le 24 décembre 2014. D'accord, donc
sortie
peut-être
France 2 janvier 2015, je l'ai sous les yeux.
Bon, ok, bah écoute, voilà. Comme je pensais. Très bien.
C'est pas grave.
Non, tu avais raison et j'avais tort, je m'avoue vaincu.
Il est sorti au Japon et aux États-Unis. Et leur idée, c'était pas con, c'était de se dire qu'est-ce que je fais dans un jeu où je peux pas sauter. Ouais. Ah oui, c'est sûr que là, tu fais dès le début l'anti-Mario, quoi, donc c'est intéressant. Bien sûr. Et ils ont fait des trucs vraiment dessus. Alors là, pour le coup, ils ont réussi à intégrer la mablette sur 2-3 trucs. Pas mal, mais t'achètes pas une console juste pour ces trucs.
Oui.
Pas mal, voilà. Comme on disait tout à l'heure. Mais c'est très intéressant. Moi, j'aime bien les castes.
Dernière petite news, le what the fuck de l'épisode.
What the fuck?
Exactement, je sais pas s'il y en aura à chaque épisode, mais c'est un truc que j'ai trouvé marrant, c'est la majesté du jeu vidéo, ce que ça permet de réaliser comme fantasme, comme.
Un grand vouloir!
Exactement. Et ben, il y a un jeune homme, qui a été emprisonné parce qu'il était dans un musée. Il a mis un gros coup de poing dans un monnaie. Il était peut-être pas hyper en bien dans sa tête, ou on sait pas. Il a mis un coup de poing dans un monnaie. Voilà. Eh bien, il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée de recréer ce jeu vidéo, de recréer ça en jeu vidéo, et qui a mis ça dans un simple navigateur sur que vous pouvez utiliser dans Chrome. Donc, si l'envie vous prend de jouer à un jeu vidéo où on peut mettre des coups de poing dans un monnaie en toute sécurité dans le confort de sa propre maison, vous pouvez.
C'est toute la beauté de la catharsis du jeu vidéo, c'est de pouvoir faire sortir tous ces bas instincts à travers des mondes virtuels. Voilà,
ouais,
ça sert le jeu vidéo en vrai.
Vous pouvez y accéder à punchamoney.gallery en anglais, donc punchamoney.gallery.
Et donc j'ai vu qu'il y avait des points en fonction des dommages qu'on infligeait au tableau, c'est ça.
Bon, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Dès que t'as mis 3 coups de poing, t'as fait les 12 millions, hein. Ce qui est
le prix en même temps pour un monnaie. Hein.
Voilà. Exactement. Là, je viens de mettre 3 coups de poing dans un monnaie, 12 millions, 4 coups de poing, bon, j'ai atteint
Et est-ce que tu te sens mieux maintenant que tu as tapé dans un monnaie?
Pas vraiment, en fait. J'avais pas spécialement envie de taper dans des monnaies, je sais pas.
Pour
certaines personnes.
Niche alors. Hein,
oui, c'est ça, exactement. Bon, et pour conclure, un petit sujet de discussion qui me tient à cœur. On dit souvent que aujourd'hui tout est cher, aujourd'hui tout est horrible, aujourd'hui rien ne va. Et il y a un article de Polygon, là encore, hein, vous aurez senti l'une de mes sources préférées, qui citait une petite étude qui a été faite par Push Square, qui est une publication PlayStation, plutôt orientée Sony, qui a établi qu'il y avait eu en 2014 $1,300 de jeux donnés aux gens qui étaient abonnés au PlayStation Plus. Vous savez que PlayStation Plus, c'est un abonnement qui coûte 50€ par an, qui vous permet d'avoir effectivement des jeux gratuits tous les mois. Alors là, ils comptaient les jeux PlayStation 3, PlayStation 4 et PlayStation Vita. De leur côté, Polygon ont fait un petit calcul pour le côté Xbox Live, qui coûte le même prix. Ils ont donné $584 de jeux en 2014 entre la Xbox 360 et la Xbox One. Il faut noter évidemment que sur eux, ils n'ont pas de portable. Donc évidemment, il y a moins de jeux. Et d'un autre côté, ils n'ont commencé à donner des jeux sur Xbox One que plus tard.
Beaucoup plus tard.
Donc, voilà. Ouais. Mais
l'année prochaine qu'on va pouvoir comparer.
C'est ça. Mais disons que même au-delà de la comparaison, moi, la réflexion que ça m'a amené, c'est que il faut vraiment être cynique à un point terrible pour se dire que les jeux vidéo sont chers aujourd'hui. Parce que les seules choses qui sont chères, et encore, on pourrait arguer du contraire, les seules choses qui sont chères, c'est si on veut absolument acheter les jeux au moment de leur sortie. C'est tout. C'est la seule chose qui est chère. Bon, alors évidemment, c'est un gros marché.
C'est cher en soi, parce que c'est une somme à sortir tout de suite, mais les moyens existent clairement. Si, un, on n'est pas pressé, et que, on a le temps d'attendre un petit peu, ça sort très vite après, en version Platinum, etc. Ça sort sur les PlayStation Plus et Xbox Live, ou alors c'est vite soldé aussi en fonction. Enfin, aujourd'hui, grâce justement au fait que toutes les consoles soient connectées et qu'on distribue par d'autres moyens que physiquement, ça permet de fluidifier et d'être plus précis sur les prix, ça permet plein de choses au niveau du marché. Donc ça permet justement de se dire qu'on peut permettre de jouer sur les prix beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça reste 60-70 euros à sortir si on veut y jouer tout de suite, c'est vrai.
Mais même là,
comme on dit souvent, c'est aussi combien d'heures de jeu,
comparé,
on peut avoir un entertainment à côté. Voilà, un film c'est 10-12 euros pour 2 heures, on fait plus que 5 fois plus, un jeu on y reste pas que 5 heures quoi, ou 10 heures, on en fait généralement beaucoup plus.
C'est souvent l'échelle que j'utilise moi pour décider de si oui ou non un jeu vaut la peine ou une source d'entertainment vaut la peine. C'est cette échelle du 10 euros pour un film de 2 heures, donc c'est à peu près 10 euros les 2 heures. Et par ce standard, effectivement, les jeux vidéo généralement sont plutôt rentables.
À bon marché, là, oui.
Ouais. Mais au-delà de ça, même, il y a d'une part aujourd'hui beaucoup de jeux à différents prix. En fait, on a eu cette discussion avec des amis, toujours dans l'émission en anglais Pixels, et ils étaient complètement pas d'accord avec moi. Ils trouvaient que les jeux vidéo c'était cher, et moi je comprends pas parce que même les jeux qui sont neufs, il y a aujourd'hui tout un éventail de prix avec des jeux indépendants, des jeux dématérialisés. Si vous allez sur le PSN ou le Xbox Live, vous allez avoir des jeux à 10, 20, 30, 40 euros en fonction du jeu, même pas les jeux soldés, différents types de jeux.
Et puis on parle même pas encore des freemium qui sont encore timidement sur les consoles et super bien installé au niveau PC, il y a des jeux pour tout le monde et toutes les bourses. Maintenant,
c'est ça.
Chacun peut trouver ce qu'il veut.
Et il y a des jeux pareils.
Même pour les triple A, quoi. Il suffit d'attendre 6 mois, 1 an. Enfin, voilà, quoi.
Là, je vais sur Steam. Il y a les soldes tout le temps sur Steam et ailleurs. Là, je vois Alien Isolation.
On achète beaucoup.
c'est sûr. Mais je vois, par exemple, Alien Isolation. Ah, moi, j'en ai des tonnes auxquelles j'ai jamais joué, mais ensuite, on peut pas dire que.
Je crois que c'est leur modèle économique, en fait. Ils ont trouvé un truc, là.
C'est ça. Mais donc, je donnais des exemples. Alien Isolation à 25 euros. Il est sorti il y a 3 mois. Skyrim, il est à 3,74 €. Bon, il est beaucoup plus vieux. Il est sorti en je sais pas, 2009, peut-être, Skyrim. Il est très vieux. Mais, enfin, très vieux, entre guillemets. C'est quand même l'un des plus meilleurs jeux de ces dernières années. Il est toujours très beau. Vous avez aussi des jeux qui sont en... Ah, il est sorti, pardon, en 2011. Donc, il a à peine 3 ans. Il est à 3 euros sur PC. Il faut avoir un PC. Mais qui n'a pas un PC aujourd'hui. Portal 2 à 4 euros. Enfin, il y a les jeux d'occasion, il y a les jeux sur portable, sur téléphone ou tablette, qui sont également assez bon marché, voire des jeux en freemium qui, pour certains, peuvent être utilisés gratuitement. Il y a les soldes, il y a les abonnements annuels pour lesquels, pour PS Plus et Xbox Live Gold, qui sont pas gratuits effectivement, mais qui amènent quand même les jeux à un tarif très intéressant. Alors, on les choisit pas, mais il y en a quand même des bons qui arrivent régulièrement.
J'étais surpris en revoyant la liste de l'année. Il y avait des beaux triple A qui sortaient tout au long de l'année et pas si loin après la sortie pour certains. Alors je ne l'ai plus sous les yeux, mais j'avais été surpris pour le coup. Ce qu'on pense aussi par contre sur le prix des jeux, faut pas oublier les DLC qu'on nous met souvent avec les triple A et qui font monter la facture de 70 à 90 voire parfois 100 euros. Là pour le coup, c'est un sacré investissement si on veut jouer à tout de suite. C'est qu'on passe même plus de on passe de 70 à 100 quoi. C'est avec toutes les éditions Gold qui contiennent tous les trucs numériques et virtuels en plus. Le problème c'est que les gens achètent. Donc si les gens n'achetaient pas, peut-être qu'ils les sortiraient pas ces éditions collector DLC et compagnie.
C'est ce qu'on disait dans les épisodes
précédents. On est vraiment dans une
je
ne trouve plus mon mot.
Il y a des gens pour acheter, effectivement, t'as tout à fait raison. Et là où on se rend compte à quel point les jeux sont pas, enfin, pour moi, dans ces deals-là, voyons la liste très rapidement. Je vais voir la liste des jeux européens offerts entre guillemets, encore bien sûr, aux abonnés PlayStation Plus en Europe. Devil May Cry, Borderlands 2.
Ça va, quoi.
En janvier, donc c'était des jeux qui étaient sortis il y a pas longtemps. Soul Sacrifice. Ensuite, en février, BioShock Infinite, Metro Last Light. Je passe très vite. Tomb Raider en mars, qui venait de sortir aussi il y a quelques mois. Batman, je reste sur l'Europe. Hotline Miami, qui était un jeu assez populaire, PES 2014, etc. Je pourrais en parler encore, parler de
Lego Batman 2, c'était génial ça, j'adorais les jeux de Lego, c'est bah, trop drôle.
Il y en a vraiment des biens, enfin bref, non, je pense qu'on est d'accord sur le principe.
Et,
puis, donc,
et en plus, ouais, Push Square a fait l'étude et ils ont justement fait exprès aussi de calculer les notes Metacritic, c'était pas non plus des jeux de merde quoi, c'était vraiment autour de 75-80, donc en plus on te donne des jeux bien quoi. C'est, alors après c'est pas forcément ton jeu dans ton style préféré, mais tu trouveras forcément quelque chose dans l'année, ça c'est sûr.
C'est ça. Et je pense que quand on est amateur de jeux vidéo et qu'on veut se lancer dans le jeu vidéo, il y a tellement de qu'on veut jouer
ça
à des jeux vidéo, il y a tellement de moyens
d'essayer.
C'est ça. Non, mais en plus il y a vraiment des moyens, plein de moyens, que ça soit, alors avoir une console et un PC, c'est pas si invraisemblable que ça si on est amateur. Et donc bref, voilà. Moi je trouve que les jeux vidéo c'est pas cher.
On n'est pas encore dans le système équivalent dans le cinéma des cartes illimitées où voilà, ça va peut-être venir avec les jeux en stream, on verra bien. Ce qui poserait d'autres problèmes, mais bon, on peut y revenir plus tard. Mais là, ça peut être un bon compromis, justement, cet aspect. Ben voilà, je paye 60€ dans l'année et j'ai des jeux qui tombent comme ça, d'un peu tous les styles. Pas être picoré, de tester, sans investissement financier trop important, pour le coup, de pouvoir regarder un peu tout ce qui se fait.
C'est ça. Exactement. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, effectivement, comme il y a aussi les autres options comme la seconde main, les soldes, etc., la revente de jeux aussi, qui finalement veut dire que vous payez un petit peu moins votre jeu en le revendant, hein, c'est comme ça qu'on peut le voir. Bref, si vous pensez, chers auditeurs, que je me plante complètement, que nous plantons et que vous trouvez que les jeux sont extrêmement chers ou un petit peu chers, venez nous laisser des commentaires sur le blog de l'émission, sur frenchspin.fr. Vous pouvez nous expliquer pourquoi nous avons tort et je serai toujours heureux de lire vos commentaires et vos explications.
Non, mais juste, tu vois, juste pour faire une comparaison avec ce que je connais à peu près bien, c'est Assassin's Creed de l'année dernière, Black Flag, qui était donc sorti à 70€. Si tu voulais le DLC, c'était 20€ de plus, quelque chose comme ça. Là, tu le trouves en édition avec tout, donc juste un an plus tard. Ça reste quand même un très bon jeu, un super jeu de pirate. Il était à 25€, quoi.
Oui. Et plus,
12
plus
mois
pire.
Après, et en 12 mois, le jeu, il a pas vieilli, il faut arrêter les bêtises. Donc, il est toujours aussi bien. Voilà, si on n'est pas à un an près, 25€ pour un jeu qui en valait 100 il y a un an, bah, c'est bien.
Et en plus, il était sur PlayStation Plus, si je ne m'abuse, il y a quelques mois de ça.
C'est possible. Oui, sacrément soldé. Oui, parce que je l'ai. Était à 15€.
Non, il était inclus.
Non, il était gratuit. Oh,
il était inclus dans le. Attends, je vais te retrouver ça parce que. Assassin's Creed, parce que moi je l'ai le Black Flag sur ma PS3, donc.
Mais c'est vrai que c'est, alors si en plus il était inclus là, c'est bien.
Oui, je crois bien qu'il y était. Bon, je vérifierai pour plus tard. Mais je me trompe, est-ce que je me trompe ou pas? Non, j'ai bien l'impression. Ah, peut-être qu'il était sacrément soldé, c'est possible.
Oui, je pense qu'il était, genre à 12€ ou quelque chose comme ça.
C'est possible. Je crois que je l'ai vu. Et je l'ai acheté.
Ouais. Bah, c'est.
Bon, ben on arrive à la fin de cette émission festive.
Ça va super vite.
Mais oui, n'est-ce pas? C'est parce que c'est tellement bon.
C'est normal. C'est toujours comme ça. Ça passe trop vite.
Alors, ben c'est aussi la semaine de Noël, donc c'est vrai qu'on a
des cadeaux à faire.
Exactement. Donc merci beaucoup Guillaume d'avoir été présent dans l'émission.
Merci pour l'invitation.
Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet, voire ailleurs?
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez nous retrouver dans la télévision, eh oui, l'ancêtre, avec des images et du son, sur LCI. Donc, l'émission s'appelle Plein Écran. C'est diffusé à peu près tous les jours. C'est aussi à retrouver sur Internet. Vous pouvez retrouver le lien sur notre page Facebook ou sur tf1news.fr. On peut me retrouver aussi dans The Game de temps en temps, le magazine papier qui marche pas mal et qui, justement, parle un peu plus aux adultes, donc c'est bien de se dire qu'il y a des publications, mais il y en a d'autres, hein. JV Le Mag font aussi ça très très bien. C'est intéressant, il y a plein de magazines qui arrivent, c'est cool. Le retour du papier. comme quoi, tu vois, tout arrive. Et puis j'aurai peut-être des surprises à vous annoncer en janvier, mais je pense qu'on s'en reparlera d'ici là.
Teasing, très très bien, écoute. D'accord, bah, tu me tiendras au courant en tout cas, je compte sur toi.
Avec grand plaisir.
Ok, et bien pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, vous le savez, j'espère depuis le temps, et bien sûr FrenchSpin.fr pour cette émission et toutes les autres que je produis. Il y a peut-être des choses qui vous intéresseront là-bas.
Si vous voulez m'écouter sur Twitter, c'est G de la Lande. Voilà.
Ah oui, mais oui, il faut bien sûr Twitter, indispensable, G de la Lande.
Ah oui, Alors, c'est-à-dire qu'en radio, ça marche moins bien. On les affiche généralement, tu vois, à la télé. Mais là, voilà, donc faut le dire. Donc, j'ai de la lampe, voilà.
Super. Bon, je te remercie beaucoup, Guillaume. Je remercie beaucoup les auditeurs.
Merci beaucoup.
Et je vous souhaite à tous un excellent Noël, d'excellentes fêtes. Je vous fais plein de bises festives encore une fois. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours, en 2015.
Et profitez des vacances pour finir vos jeux. Voilà.
Oui, que ça soit utile au moins. Non, mais.
Voilà. Tant qu'à faire. Allez,
au revoir à tous. Ciao.